Un accord signé à Paris, cela faisait plus d'une semaine que les délégations calédoniennes étaient réunies pour négocier. Un consensus a finalement été trouvé. Plus de détails en début de journal. Des ateliers de création audiovisuelle sont proposés dans le cadre du festival Récif. Près de 15 jeunes ont pu apprendre les bases de la préparation d'un film. Il y a du rififi dans les rangs de la France insoumise. Depuis la proposition polémique de Mathilde Panot de désarmer la police municipale, les personnalités politiques s'affrontent. L'actualité dans le Pacifique, la ministre australienne des Affaires étrangères a exprimé ses inquiétudes face aux ambitions stratégiques de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Le sport sur le territoire, l'écurie Nasser et son cheval One More, monté par Jérôme Peraldi, remportent la Bourail Cup. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie a été signé tôt ce matin, heure de Paris. Après 10 jours de négociations et une nuit blanche, l'État et les groupes politiques calédoniens ont apposé leur signature au bas d'un document qui n'a pas été rendu public, mais dont on connaît les grandes lignes. Dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement parlent d'un accord historique, Elisabeth Noir.
En effet, un accord historique qui a requis de la part de tous, écrivent-ils, des concessions significatives pour offrir à la Nouvelle-Calédonie un avenir de paix et de prospérité. Sans entrer dans les détails, ce communiqué précise que l'accord instaure une nouvelle ère de stabilité en inscrivant de manière durable la Nouvelle-Calédonie dans la République française et en permettant la réouverture du corps électoral à de nombreux Calédoniens et à leurs conjoints. Les loyalistes et le Rassemblement se félicitent que ce choix respecte la volonté exprimée par les Calédoniens à 3 reprises de maintenir la Calédonie au sein de la République française. C'est donc un accord pérenne. Il faut comprendre qu'il ne prévoit pas de référendum binaire d'autodétermination. Les loyalistes et le Rassemblement précisent aussi que ce texte renforce la démocratie calédonienne par un rééquilibrage des sièges au Congrès au bénéfice de la province sud. Il donne également aux provinces les leviers nécessaires à la définition de leur propre modèle de société à travers l'exercice de la compétence fiscale. Il conforte le rôle de la France en Nouvelle-Calédonie en maintenant les compétences de sécurité, de justice, de défense et de monnaie à l'État. Il sécurise enfin les biens des Calédoniens en mettant un terme aux revendications foncières sur le domaine privé. Autant d'avancées majeures dont nous nous réjouissons et qui permettent d'aborder l'avenir en confiance, soulignent les partisans de la France. Mais cet accord est bien sûr le résultat d'un consensus et les loyalistes et le Rassemblement ont fait un certain nombre de concessions. Et d'abord, la Nouvelle-Calédonie devient un État intégré dans l'ensemble national français et reconnu dans la Constitution. Il est créé une nationalité calédonienne, indissociable de la nationalité française. C'est en fait une double nationalité calédonienne et française qui se substitue globalement à l'actuelle citoyenneté. Il est mis en place une loi d'auto-organisation et l'action de la Nouvelle-Calédonie est élargie sur la scène internationale dans le cadre indo-pacifique en lien direct avec la France. Et puis il est également prévu une possibilité de transfert, dans certaines conditions très draconiennes, d'une partie de certaines compétences régaliennes. Sonia Bekes, la chef de file des loyalistes que nous avons joint juste après la signature de cet accord, se dit à la fois satisfaite et soulagée.
Satisfaite évidemment, soulagée également. Je pense que la Nouvelle-Calédonie avait besoin d'un accord. Je suis convaincue que cet accord permet de sortir de la spirale de l'immobilisme, de la violence et de la récession dans laquelle on était rentré. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, sur le fond, il nous permet de respecter le résultat des 3 référendums en maintenant la Calédonie dans la République, de ne pas avoir de nouveaux référendums prévus, de réouvrir le corps électoral, de rééquilibrer le Congrès. Il y a évidemment des concessions qui ont été faites de notre part et notamment le fait d'accoler nationalité calédonienne à côté de la nationalité française, qui évidemment n'enlève rien ni à notre appartenance à la République, ni à notre nationalité française. Mais effectivement, c'était un élément d'équilibre important pour arriver à trouver cet accord.
Pour résumer les choses, c'est un accord qui maintient la Nouvelle-Calédonie dans la France, qui ne prévoit pas de référendum d'autodétermination. Dans ces conditions, pourquoi les indépendantistes et comment ont-ils accepté de le signer ?
Donc effectivement, ils l'ont signé. Ça a été très long puisqu'on a passé la dernière nuit blanche pour caler les choses. L'État a joué son rôle hein, avec les différents intervenants qui étaient là, le cabinet du président de la République, le ministre, le cabinet du Premier ministre. Enfin bon, tout le monde était présent pour essayer d'aboutir. Nous, on a été, la délégation des loyalistes et du Rassemblement a été très solide, mais c'est vrai que les indépendantistes, ils ont des choses dans cet accord qu'ils font sans doute, ils l'ont signé, notamment cette histoire de nationalité et des capacités pour eux d'avoir plus d'autonomie.
Vous avez également obtenu plus de compétences pour les provinces, qui était l'un de vos souhaits. Hein.
Oui, tout à fait. C'est fondamental d'avoir la capacité fiscale aux provinces et d'avoir les outils qui permettent aux provinces de se développer différemment en fonction de leur projet de société.
Voilà pour ces premiers éléments. On sait par ailleurs que le corps électoral pour les prochaines élections provinciales, pas pour toutes les élections provinciales, mais pour les prochaines, va être un corps glissant sur 15 années. Ces élections provinciales qui étaient prévues à l'origine en novembre 2025 devraient être reportées à mai ou juin 2026. Alors cet accord a été signé tôt ce matin en métropole, peu avant 16h, heure de Nouvelle-Calédonie, par les délégations qui étaient réunies à Bougival depuis une dizaine de jours. À l'origine, il devait être signé dans la soirée d'hier à Paris. On avait parlé de 22 ou 23 heures. Mais les indépendantistes ont tenu une visioconférence avec le bureau politique à Nouméa. Et cela a duré une grande partie de la nuit. C'est donc ce matin, à 6h, que l'accord a pu être signé dans l'hôtel Hilton de Bougival.
Il a été signé à Bougival, donc à l'hôtel où nous avons passé les 10 derniers jours. Je pense qu'il y aura une signature plus organisée dans quelques jours, dans quelques semaines, sans doute de retour à Nouméa. Quelque chose de plus mis en scène, entre guillemets. Mais cet accord a été signé par toutes les délégations.
Et l'État a été représenté par qui pour cette signature ?
Par Manuel Valls.
Le président de la République devait lui-même clôturer le sommet. Est-ce que c'est toujours envisagé dans les heures qui viennent ?
Oui. Il est prévu qu'on aille à l'Élysée dans les jours qui viennent. Le président de la République est resté à nos côtés jusqu'à 2h du matin. Puis c'est vrai qu'à 2h du matin, on a tous pensé que c'était fini. Les choses ont continué. On a fini par signer à 6h du matin. Donc il nous recevra dans la journée.
Voilà, le président de la République qui a donc suivi de près l'évolution de cet accord pérenne pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et il a donc été signé au terme d'une nuit blanche. Les loyers et le rassemblement précisent encore dans leur communiqué que le chantier de la reconstruction débute, qu'il sera long et fastidieux, mais que le nouveau cadre institutionnel redonne aux Calédoniens un cap clair et un horizon dégagé, et aussi qu'il rassure les investisseurs et offre une perspective de stabilité. Cet accord prévoit en effet également que l'État s'engage à accompagner la Nouvelle-Calédonie financièrement, matériellement et humainement dans cette nouvelle étape. Prévu également le soutien à la filière nickel, le financement de grands travaux, l'ajustement des modalités de remboursement des assurances ou encore l'apurement des dettes du territoire pour relancer une dynamique économique vigoureuse et durable. C'est une sorte d'accord économique qui est donc compris dans cet accord sur l'avenir institutionnel. Alors nous le disons, le texte définitif de cet accord n'a pas encore été rendu public, il le sera sans doute dans les prochaines heures, mais on sait que les Calédoniens seront consultés dans les prochains mois pour valider cet accord qui, le cas échéant, devrait être entériné par le Parlement.
Tu as été sur le territoire marqué par plusieurs drames. En fin de matinée à Pierre-Lanquette, une petite fille de 2 ans a été jetée par son oncle du 4e étage d'un des bâtiments du quartier. L'oncle serait schizophrène. La petite fille inconsciente a été évacuée au Medipol. L'oncle a quant à lui été placé en garde à vue. Nous vous en parlions déjà ce midi. Une femme de 38 ans a été retrouvée morte à Dumbéa en début de soirée hier. La gendarmerie avait émis un signalement de disparition inquiétante il y a moins d'une semaine pour une femme qui était hospitalisée au Medipol et qu'elle aurait quitté le 3 juillet dernier. Son corps a été retrouvé dans la mangrove derrière l'établissement. Une autopsie va être effectuée pour déterminer les circonstances de la mort. Et un feu d'origine volontaire détruit entièrement un squat à Montravel au niveau de la montée. Les pompiers sont intervenus entre 18h et 20h. La famille, 2 adultes et 2 enfants, dont un bébé de 1 an qui vivait dans ce logement précaire, a été relogé par la mairie. Les pompiers sont également intervenus aux alentours d'1h30 du matin pour un feu de voiture toujours d'origine volontaire à l'entrée d'un lotissement à Wemo. Les Calédoniens bénéficient d'un week-end de 3 jours, puisque lundi, ce sera le 14 juillet, jour de la fête nationale, qui donnera lieu à de nombreuses manifestations et cérémonies dans plusieurs communes du territoire. Comme à l'accoutumée, Païta célèbre la fête nationale la veille, soit demain, dimanche 13 juillet. La cérémonie se déroulera à 10h au Monument aux Morts. La journée sera ensuite consacrée aux festivités, Kélinda Boicou.
L'après-midi, rendez-vous à l'Arène du Sud dès 13h30 pour un programme festif avec animation, atelier, plateau musical et stand de restauration. La retraite au flambeau est prévue à 18h. La Vie du Mont d'Or fêtera sa traditionnelle fête des sports et des associations. Rendez-vous pour 2 jours de folie dédiés au sport et au monde associatif et à la bonne humeur. Le rendez-vous est donné demain de 17h à 20h au parc Paul Bloch de Poulme. de plumes, puis le lundi 14 juillet de 8h à 15h au complexe culturel et sportif Victorin Boeva à Boulari. La ville de Nouméa organise pour sa part une retraite au flambeau le dimanche 13 juillet. Le cortège partira de la Bénamoselle pour rejoindre la place des Cocotiers. Au programme à 18h30, la distribution des 6000 lampions sur la place Bénamoselle au niveau du monument américain pour le départ du défilé.
Et demain, toujours à l'occasion de la fête nationale, le maire et les élus de Boulou-Paris ont souhaité organiser un festival de la gastronomie.
Une manifestation qui permettra de mettre en valeur les plats et régions culinaires de métropole sur la place de la mairie. Pour rendre ce début de journée interactif, un concours entre exposants, mais aussi entre participants sera organisé. Jérémy Coste, secrétaire général de la mairie de Boulou-Paris, nous en parle plus en détail.
On aura une dizaine de régions culinaires représentées avec un concours qui mettra à l'honneur le meilleur gourmand et le meilleur pâtissier. Donc il y aura une remise de récompense au meilleur plat et au meilleur dessert. Les deux exposants donc, qui feront le plat et le dessert, eux, ils auront un trophée. Et puis c'est les participants donc du public qui auront dans une tombola un prix pour deux bons repas donc au lycée Escoffier. Alors le maire a organisé ça depuis maintenant 4 ans, on fait un marché français. Cette année on a décidé de passer à l'étape supérieure avec un concours pour rendre l'animation de ce festival de la gastronomie à l'occasion du 14 juillet pour mettre en avant les traditions et la cuisine française. Donc on aura des stands d'outre-mer et de France et bien sûr des plats de Nouvelle-Calédonie.
Les visiteurs sont attendus demain à Boulou-Paris de 11h à 14h sur la place de la mairie pour le festival de la gastronomie, puis de 16h à 21h à la caserne des pompiers où de nombreuses animations seront au programme, notamment un bal des pompiers, spectacle de danse, lâcher de lanternes et séances de cinéma en plein air.
Le Calédonian Show revient demain pour sa deuxième édition au Forte Remba de 10h à 16h30. Une journée pour revivre l'histoire du territoire et se divertir en famille, Kelinda.
L'événement propose de nombreuses animations pour petits et grands. Entre balades en véhicule ancien, tour à cheval et exposition, les visiteurs pourront découvrir le site dans une ambiance ludique et conviviale, le tout accompagné de stands de restauration sur place. Le point d'orgue de cette journée sera le Calédonian Show de 14h30 à 15h30, un spectacle historique qui retrace l'histoire du territoire, interprété par une centaine de figurants en costume d'époque. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site étiquette.nc ou dans les magasins Canal Plus partenaires. L'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans, 500 francs pour les enfants de 10 à 17 ans et 1000 francs pour les adultes.
Et demain toujours, ce sera le traditionnel marché de mamie de 8h à midi sur la place de la mairie. Culture et la suite du festival Récif pour les amateurs de cinéma et ceux qui veulent s'essayer à la réalisation. Des ateliers sont organisés à Nouméa, Michael Juneski.
Oui, une initiative mise en place pour des groupes qui veulent donc s'essayer à la création audiovisuelle. Aujourd'hui, une quinzaine de jeunes a pu participer à un stage pour apprendre les bases de la préparation d'un film. Rémi Pierre de Carvalho est réalisateur, membre du comité du festival Récif et donc professeur de cinéma du jour.
Ce qu'on propose aujourd'hui, du coup, avec ce stage, en fait, c'est de faire un film en 4 sessions. Donc, une session de théorie où, en fait, on apprend, on leur donne les cartes pour pouvoir réussir à réaliser un petit film avec leur groupe. Et ensuite, il y a le tournage, le montage et ensuite une diffusion des briefs sur ce qui a été bien fait, pas bien fait, comment on aurait pu mieux faire, dans l'optique d'apprendre et de transmettre aussi la passion. Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'envie, en fait. Ils se sont inscrits de leur propre volonté. Donc, tout le monde vient dans l'envie de faire un film et d'apprendre. Ils sont tous très curieux, donc c'est bien.
Et en tout cas, à l'heure de faire leur premier pas dans le monde du cinéma, les jeunes étaient ravis.
J'avais jamais participé à des ateliers de ce type-là. Et je suis pas très cinéma et pas très montage en général. Mais là, du coup, je découvre tout un nouvel univers. J'aime bien.
Moi, j'aime bien parce que ça apprend aussi de nouvelles choses. On utilise notre imagination, quoi.
C'est bien, moi, ça nous occupe le week-end. On sort un peu, on apprend à connaître de nouvelles personnes et c'est toujours un plus pour la créativité.
C'est très intéressant, tu es vraiment dans le projet, tu réalises qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte pour pouvoir fournir un bon contenu aussi.
C'est trop bien. En plus, moi, plus tard, je vais travailler dans un peu ce milieu-là, donc ça me fait des belles expériences, ça me donne envie de continuer, voilà.
De nouveaux stages gratuits, hein, on le précise, seront proposés encore en août et en septembre. C'est ouvert à partir de 13 ans, mais également aux adultes, alors qu'un concours de court-métrage se déroulera au début du Festival Récif, festival prévu du 7 au 15 novembre prochain.
Toujours à Nouméa, les amateurs d'automobiles peuvent profiter jusqu'à demain du salon Toyota à la Maison des artisans de Nouville. Nombreux sont les visiteurs à s'être déplacés pour trouver leur prochain coup de cœur. Dans ce salon, les véhicules sont exposés en extérieur et à l'intérieur de la Maison des artisans, on peut retrouver des accessoires ou bien des sociétés spécialisées dans la défiscalisation, mais aussi des banques. La BNC propose aux potentiels acheteurs de les accompagner dans leurs achats avec des crédits à taux préférentiel. Exemple avec Chloé Grumeau, qui est la directrice du réseau professionnel au sein de la BNC.
Le but, c'est de pouvoir accompagner les clients qui veulent acheter un véhicule ou en tout cas se renseigner sur savoir quelle est leur capacité d'emprunt. Le plus souvent, c'est des renseignements sur les investissements, voir comment ils peuvent organiser leur budget pour pouvoir justement acheter un véhicule. Il y a aussi pas mal de professionnels qui viennent, donc voir comment la banque s'organise avec la défisque pour pouvoir accompagner justement le remplacement de leur flotte automobile ou des investissements. On est surtout là pour rassurer, regarder avec eux quel est leur budget et essayer de le caler au mieux pour que ça réponde aux besoins de tout le monde.
Qu'est-ce que vous faites au stand ?
En fin de compte, je cherche un nouveau véhicule parce que là, pour l'instant, je conduis le véhicule de mon père. Donc, du coup, j'ai été voir un véhicule qui me plaît et au stand de BNC, je vois combien de mensualités j'aurai sur cette voiture si je la prends aujourd'hui. Elle a le papier. Par contre, maintenant, il faut que je visite la voiture pour voir si je finalise mon choix sur celle-là.
Des crédits accordés aux particuliers et aux professionnels qui peuvent aider à la relance du marché de l'automobile qui a souffert ces dernières années, souligne le président de Toyota Nouvelle-Calédonie, Yorick Dong.
C'est sûr qu'il y a eu une période un petit peu compliquée là, mais honnêtement, nous, par rapport à Toyota, on a quand même eu une constante où, par rapport à la marque, je pense, et puis les gens veulent de la fiabilité, ils restent justement sur la marque fiable, quoi, avec la dynamique qu'on a réussi à mettre en place depuis plusieurs années. Et honnêtement, là, sur le salon, je suis agréablement surpris. Déjà, la première journée vendredi, on a fait gérer plus de monde que l'année dernière déjà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous. On sent l'engouement derrière et l'attachement à la marque qui est forte.
Le salon Toyota est à retrouver à la Maison des artisans de Nouville jusqu'à demain de 8h30 à 17h. L'entrée est gratuite. 18h passées et de 2 minutes. Première pause avant de voir l'actualité nationale mais aussi internationale.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Léana Colombo.
L'exercice est rare, presque inédit. Le chef d'état-major des armées a dressé hier, à l'occasion d'une conférence de presse, un panorama des menaces qui pèsent sur la France. Il évoque le Kremlin qui a fait du pays sa cible prioritaire en Europe. Selon Thierry Burkhard, 3 pays en tout font l'objet d'une attention toute particulière. Les détails de William Molinier pour Europe 1.
Oui, l'Iran, la Chine et la Russie. L'Iran, parce qu'elle se constitue des otages d'État. 3 ressortissants français sont actuellement détenus arbitrairement dans les geôles du régime. La Chine, en ce qu'elle mène des opérations de déstabilisation sur l'industrie de défense française. Enfin, la Russie, qui a fait de la France sa cible prioritaire. Thierry Burkhard, le chef d'état-major des armées.
Il y a la Russie, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Alors, la Russie, une menace durable, proche et qui est pour moi la plus dimensionnante.
Les sous-marins russes nous surveillent, détaille le général, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les projections de ces états-majors anticipent une régénération de l'armée russe qui a pourtant subi de lourdes pertes sur le front ukrainien, mais qui pourrait donc renaître plus forte encore avant 2030 et viser d'autres pays frontaliers en Europe.
Une intervention du chef d'état-major des armées à la demande d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État prendra, lui, la parole demain à la veille du défilé du 14 juillet. Il devrait, selon son entourage, faire des annonces majeures en matière d'efforts de défense du pays. Et comme chaque année en métropole, les festivités du 14 juillet commenceront la veille, soit demain. À Paris, le feu d'artifice sera de retour au pied de la Tour Eiffel après avoir été délocalisé l'an dernier en raison des Jeux Olympiques. Dans la capitale, Justement, un important dispositif de sécurité sera déployé. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche et lundi, selon la préfecture. Aucun rassemblement ne sera toléré sur les Champs-Élysées, alors que le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea à New York à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. En politique, cette question, que se passe-t-il dans les rangs de la France insoumise? Depuis la proposition choc de la chef des députés LFI, Mathilde Panot, de désarmer la police municipale et réduire les caméras de surveillance, le parti de Jean-Luc Mélenchon se déchire en interne. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Oui, à seulement 9 mois des prochaines municipales, plusieurs candidats insoumis redoutent de se couper des électeurs avec ce genre de mesures. Face à la hausse de l'insécurité, le député David Guiraud et candidat à Roubaix assurent même que la réalité locale impose de ne pas désarmer la police municipale. Dans les faits, les deux seuls maires insoumis aujourd'hui en France ont même fait l'inverse en plaçant la sécurité comme une priorité. Ils ont notamment doublé le nombre de caméras de vidéosurveillance et augmenté la présence de policiers municipaux sur le terrain. Mais à gauche, la polémique enfle. Selon le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, cette proposition montre à quel point la direction de la France insoumise est hors sol. Ils sont surtout prisonniers d'une idéologie anti-flic, analyse un socialiste. Alors, pour tenter d'éteindre l'incendie, la France insoumise précise que ce désarmement serait accompagné d'un renforcement de la police nationale. Une promesse irréalisable aujourd'hui, car cette décision revient uniquement au ministre de l'Intérieur.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Du nouveau dans l'enquête sur le crash du Boeing d'Air India le 12 juin dernier. Selon un rapport, les interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs se sont mis en position arrêt juste avant l'impact. Un drame qui a coûté la vie à 260 personnes au total. Et puis toujours en bref, selon l'ONU, près de 800 personnes ont été tuées depuis fin mai en attendant l'aide humanitaire à Gaza. Hier, des tirs près d'un site de distribution ont encore fait plusieurs victimes. L'armée israélienne dit avoir tiré les leçons d'incidents mortels. L'actualité dans la région, en Malaisie, où elle était invitée à participer au sommet des chefs de la diplomatie des pays membres de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a exprimé ses inquiétudes face aux ambitions stratégiques et à l'expansionnisme militaire de la Chine dans l'Indo-Pacifique. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Penny Wong a déclaré d'emblée que, je la cite, l'Australie n'approuve pas toutes les politiques de Donald Trump, mais soutient fermement le maintien de la présence américaine dans l'Indo-Pacifique. Ce contrepoids, a-t-elle dit, est essentiel afin de limiter les efforts de la Chine visant à modifier l'équilibre des pouvoirs régionaux en sa faveur. La Chine, a poursuivi la ministre, continue d'affirmer son influence stratégique et de projeter toujours plus loin sa puissance militaire dans notre région, tout en renforçant ses capacités nucléaires et conventionnelles sans la transparence attendue d'elle. Aucun d'entre nous, y compris les États-Unis, ne cherche une confrontation militaire avec la Chine, a-t-elle affirmé. Ce que nous recherchons, c'est un équilibre des pouvoirs où aucun pays ne domine et aucun pays n'est dominé, a-t-elle conclu. Son propos risque toutefois d'être mal perçu par l'Empire du Milieu, où le Premier ministre australien Anthony Albanese se rend pour une semaine à partir d'aujourd'hui à l'invitation des dirigeants chinois. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h09, seconde pause avant de passer au sport.
La foire de Bouraille est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bouraille. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info Weekend, l'actualité sportive, on retrouve Léana Colombo.
Et à la une de l'actualité sportive, un grand rendez-vous pour la saison hippique ce samedi. Mickaël Juneski, c'était le retour de la Bouraille Cup.
Exactement, l'une des courses phares du calendrier de la saison hippique sur l'hippodrome de Téné. Et c'est le cheval de l'écurie Nasser, One More, qui a décroché la victoire montée par le jockey calédonien Jérôme Peraldi. Il est arrivé donc en tête à l'issue de cette épreuve réservée aux chevaux nés et élevés sur le territoire. One More qui devance Billy Rose et Miss Catépaï. Les précisions de Nicolas Schneider, président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie.
Une course grandement menée avec une surprise à l'arrivée puisque c'est un des outsiders One More, le régional de l'étape, le cheval entraîné par Salah Nasser qui l'emporte, qui puis est monté par le jockey calédonien Jérôme Peraldi. Il remporte une magnifique édition de la Bouraille Cup. À l'arrivée, il devance un autre outsider, Billy Offrose, qui confirme tout ce qu'il nous a montré depuis le début de l'année. Et puis, en troisième position, on retrouve donc Miss Catépaï, que je vous avais citée, et qui confirme qu'il faudra peut-être compter avec elle dans les prochaines réunions. Elle semble retrouver son meilleur niveau. Donc, un tiercé 3-1-6 qu'il fallait jouer pour cette Bouraille Cup. Et puis, donc, Salah Nasser, qui remporte une quatrième Bouraille Cup, puisqu'il avait déjà remporté ce trophée trois fois précédemment, dans les années 80 notamment. Ce qu'on retiendra aussi sur ce meeting, donc, c'est que trois jockeys ont fait des doublés. Jérôme Peraldi, qui a remporté donc deux épreuves, notre jockey calédonien, mais également Julien Magnez, deux courses. Et puis le Brésilien Maicon Mesquita de Lima, qui remporte aussi deux épreuves. Donc six courses de galop que se sont partagées, trois jockeys respectifs.
Voilà, Nicolas Schneider, président de la Fédération des courses hippiques et speaker officiel. Prochaine réunion prévue dans 15 jours, cette fois sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa, pour préfigurer déjà ce que sera la prestigieuse Casino Coupe Clark.
Et voyons ce qui fait le reste de l'actualité sportive, on reste à Bouraille.
Oui, avec un double rendez-vous organisé par Pro Events en partenariat avec RRB. Pour les trailers, ce soir, c'est le traditionnel trek des Érythrines qui est en cours. Et puis, dès demain, les VTTistes s'élanceront cette fois à l'assaut de la BCID Vassan, première étape du Sud Tourisme VTT Pro Tour. Demain également, toujours à Bouraille, le motocross reprendra ses droits sur la propriété persan au Cap avec la première manche du championnat de course sur prairie. Et puis, il y a du football avec la 8e journée de Super League au stade Nouma Dele. Gaïcha, cet après-midi, a battu Yengenspor sur le score de 2-1. Depuis 17h30, Cougné est opposé à Lossi. Le score était de 1 but partout après 28 minutes de jeu. Demain, Nejiu défiera Magenta. Et puis, Horizon Passau jouera contre Tigasport.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouraille, c'est le 99.
Le sport en rugby, le 15 de France fait face à la Nouvelle-Zélande.
Le deuxième match de la tournée des Bleus sur les terres des All Blacks. Une semaine après la courte défaite de cette équipe de France, largement remaniée, des nouveaux visages sont encore face au redoutable Néo-Zélandais ce soir. Gaëtan Barlow, on le rappelle, est capitaine de ce 15 de France. La rencontre a débuté il y a quelques minutes seulement sur le terrain de Wellington. Le Calédonien Romain Taofifénoa est dans le groupe. Je rappelle que le week-end dernier, les Bleus avaient perdu de peu sur le score de 31-27.
En tennis, c'est un week-end de finale, messieurs, à Wimbledon.
C'est un week-end de finale. Oui, pardon, je vous ai dit messieurs, c'est tout autant pour moi. Il y a des finales aussi chez les dames, justement, dès ce soir chez les dames. Et ce sera une finale inédite, puisque la Polonaise Iga Swiatek défiera l'Américaine Amanda Anisimova. Mais chez les messieurs, effectivement, hein, dès demain, on retrouvera une nouvelle confrontation au sommet entre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, et son premier poursuivant au classement ATP, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Sinner qui avait éliminé le Serbe Novak Djokovic en demi-finale. L'Espagnol Carlos Alcaraz, on le rappelle, avait déjà battu Sinner en finale à Roland-Garros il y a quelques semaines.
Et l'actualité du cyclisme avec la suite du Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Tadej Pogacar a signé une nouvelle victoire sur la 7e étape de la Grande Boucle.
Oui, aujourd'hui, le Slovène s'est imposé au sommet du mur de Bretagne. Une victoire au sprint devant le Danois Jonas Vingegaard. Notez que le Britannique Oscar Honley s'est classé 3e. On retiendra surtout que Tadej Pogacar a repris au passage le maillot jaune de leader Mathieu Van Der Poel. Alors, au classement général, Pogacar compte 54 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel et le Français Kevin Kevin Vauquelin est en troisième position à une minute du leader. Il est très fier d'occuper actuellement cette troisième place.
Non, c'est une vraie folie et j'ai vu encore des pancartes avec ma tête quand j'étais en full lactique. Donc ça donne juste envie de se surpasser encore plus. Voilà, j'ai encore la marche sur pas mal de points, donc maintenant faut que ce début de Tour de France me serve vraiment pour l'avenir. Dans un peloton, on le voit très bien, le placement c'est le plus important. Et donc maintenant, après, j'ai juste à travailler et en jouant les premiers rôles à chaque fois, son corps il s'améliore. C'est pour ça qu'on voit Jonas, Remco ou même Tadej s'améliorer d'année en année. Ils font des efforts max qu'on ne pourrait jamais faire à l'entraînement. On est à la 7e étape, il en reste encore 14.
Et ce soir, le peloton s'élancera sur une nouvelle étape longue de 171 km jusqu'à Laval. Le départ sera donné à 22h25, heure de Nouméa.
Et Mickaël, on termine avec les sports mécaniques et le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP.
Et lors des essais libres, c'est l'Italien Fabio Di Gianantonio du team VR46 qui a dominé les débats en signant au passage le record du circuit, en devançant surtout les frères Marquez, alors que Fabio Quartararo, le Français au guidon de sa Yamaha, a déjà signé le 4e temps de référence. Tandis que Joan Zarco, lui, a terminé en dehors du top 10. Ce soir, les pilotes disputeront les qualifications, puis la sprint race. La course est prévue demain soir à partir de 23h, heure de Nouméa.
Merci, Mickaël Juneski. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
La météo, c'est avec vous, Thierry.
Oui, Léane, avec nuances jaunes et de fortes pluies pour ce soir. Des orages sur les communes de Païta, Nouméa, Mandor, Yaté, Lifou et Marais pour des averses parfois fortes et localement orageuses pour cette nuit. Donc ce soir, des éclaircies résisteront sur le nord-est en début de nuit, mais dans l'ensemble, le ciel sera chargé, le temps souvent pluvieux. Les averses sont généralement faibles à modérées. En début de nuit, elles deviendront localement fortes, voire orageuses sur la pointe sud, Lifou et Marais. En cours de soirée, le vent orienté sud se maintient autour des 15 à 20 nœuds. Il dépassera localement les 20 nœuds sur l'extrême nord avec des rafales prévues donc jusqu'à 30 nœuds. Les températures pour cette nuit, 15 à 20 degrés. Demain matin, en Loyauté, le ciel sera encore très chargé, mais les averses sont encore localement soutenues. Au petit matin, elles deviendront progressivement plus rares. Ailleurs, le soleil s'imposera au fil de la matinée, même si quelques nuages et averses résiduelles persisteront sur les versants ouest du relief au lever du soleil. Le vent, 20 à 25 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 35 nœuds. Ça sera sur les pointes de la Grande Terre.
Merci beaucoup, Thierry. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle la principale actualité. Un accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie a été signé tôt ce matin, heure de Paris. Après 10 jours de négociations et nuit blanche, l'État et les groupes politiques calédoniens ont apposé leur signature au bas d'un document qui n'a pas encore été rendu public, mais dont on connaît les grandes lignes. Dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement parlent d'un accord historique. Il est 18h18. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera à 19h.